de la dernière nuit avant la sortie d'Égypte, ou la nuit de la sortie d'Égypte. Hazal disent que Hachem avait annoncé, donc, attends, Hachem avait annoncé qu'à minuit, il agirait en Égypte et tuerait tous les premiers-nés égyptiens. À la fin de l'épisode de l'avant-dernière plaie, la plaie des ténèbres, Pharaon avait dit à Moshe, surtout ne te présente plus jamais devant moi. Si tu te présentes devant moi, je te tue. C'est un peu des paroles en l'air parce que, évidemment, il a essayé de le tuer au tout début. Ça marchait pas. Ça fait 10 fois enfin 9 fois qu'il est venu le voir. Et que, bon, il a bien vu qu'il pouvait pas le tuer. Donc, c'est quoi? C'est, si tu viens, je te tue. C'est blablabla. C'est bien que tu as essayé de le tuer, ça marche pas. Mais bon, c'est ce qu'il lui a dit. Alors, Moshe lui a dit, tu as raison, je ne reviendrai plus, quoi. Et quand, effectivement, Hachem a frappé l'Égypte, et que, au milieu de la nuit, quoi, Paro s'est réveillé, la mort, il y avait des morts partout, quoi. Alors, il a cherché Moshe et Aaron pour leur dire de partir. Bon, il a eu du mal parce que, Moshe, c'était un peu caché, quoi. Enfin, il leur a dit, partez, levez-vous, partez. Bon, Moshe lui a dit, nous, on a un interdit formel de sortir de nos maisons jusqu'au matin. Interdit de sortir de la maison jusqu'au matin. Et d'ailleurs, ceci mis à part, on va pas partir comme des voleurs. On partira le matin. On dit partez, partez, mais mon cher, partir. Partir dans la nuit. Alors, bon, c'est tout de suite une parenthèse, mais vous vous souvenez certainement qu'en vérité, pendant cette nuit-là, depuis Hatzot, depuis minuit, on y voyait comme en plein jour en Égypte, parce que c'est un cas de figure un peu étrange. Où les choses sont présentées comme ça. Avraham Avinu, quand il est allé pour essayer pour faire la guerre, pour délivrer Lot, qui avait été fait prisonnier dans la guerre des quatre rois contre les cinq rois, et Lot avait été fait prisonnier, il était accusé d'avoir été lui l'instigateur de la révolte, etc. Tout était de sa faute. Et en fait, les Goïms, à ce moment-là, ils ont pensé que il fallait faire savoir à Abraham Avinu, enfin, c'est pas leur père, mais à Abraham que Lot était prisonnier, parce que Abraham va pas rester les bras ballants, il va venir faire la guerre et à ce moment-là, on va pouvoir enfin le tuer, quoi. Mais bon, Abraham est allé faire la guerre, vous vous souvenez, c'est la fameuse guerre qu'il a faite en leur jetant de la paille et de la poussière. On ne va pas en refaire. Et, en fait, ce qu'Hachem ce qu'Abraham a dit, c'est que si je ne fais pas la guerre comme c'est l'habitude de ne pas faire la guerre la nuit, ben Lot il va souffrir une nuit de plus. Donc, pour éviter que Lot souffre une nuit de plus, il a fait la guerre la nuit. Donc, comme vous savez, à ce moment-là, on ne faisait pas la guerre la nuit. Il y avait des problèmes de générateur, tout le monde n'avait pas son générateur, donc on ne pouvait pas faire la guerre la nuit. On ne voyait pas assez bien. Donc, mais Abraham, lui, a fait la guerre la nuit. Hachem lui a dit, toi, tu as transformé. Alors, il faut ajouter que la nuit en question, c'était la nuit du 14 au 15 Nissan. Et Abraham a transformé donc la première moitié de la nuit, où il a fait la guerre. Il a transformé en jour. Parce qu'il s'est battu, il a fait la guerre comme on le fait de jour. Et Hachem lui a dit, puisque toi, tu as transformé la nuit en jour pour sauver Lot, moi je ferai la même chose pour tes enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand les Bnei Israël vont sortir de Mitzrayim, ils vont être libérés. On a déjà parlé de ça. Ils vont être libérés à Hatsot, à minuit, libérés parce que c'est le moment quand je vois frapper les Égyptiens. À ce moment, les Égyptiens disent parfait. Donc la Géoula, elle a lieu de nuit, mais la Yetzia, la sortie, elle n'a lieu que le matin. Ils ne vont partir que le matin. Vous vous souvenez, j'ai vu avec vous cette histoire du Erev Rav, bien que le matin, etc. Donc en vérité, quand il lui dit on va pas partir la nuit comme des voleurs, alors c'est pas que normalement quand on dit on part pas la nuit comme des voleurs, c'est parce que si on part la nuit, c'est qu'on n'est pas tellement sûr de son droit de partir. C'est comme si on voulait échapper au regard des autres, qui ne voient pas partir, etc. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais c'était quand même la nuit parce que c'était le moment où les gens étaient allés dormir et bon, au milieu de la nuit, quoi. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi mon cher Rabbeinu insiste pour partir de jour. Alors, mon cher insiste, et Paro insiste lui aussi, il fait pression pour qu'il parte de nuit. Mais finalement, ils partiront que de jour. Ça veut dire que la liberté, la liberté qu'il aurait donnée cette nuit-là, c'est une liberté, mais en même temps, ils n'ont pas le droit de sortir de la maison, ils sont confinés dans leur maison jusqu'au matin. C'est-à-dire, formellement, ils sont libres, mais ils ne peuvent pas bouger de chez eux. Alors, c'est une limitation de leur liberté. Ça s'appelle être aux arrêts, être, je sais pas, être confiné. Bon, on a expérimenté ça, ça veut dire d'être confiné. Alors, c'est Hachem qui leur a interdit de sortir. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de sortir? Parce qu'il y a un principe général, très important, qui dit que Ivan Shenitan Reshut la Mashrit, étant donné qu'une fois qu'on a donné la permission au destructeur, alors il n'est pas Mafrin Ben Sadik le Racha. Il ne fait pas le tri. Ça veut dire, à partir du moment où Hachem a donné la permission au Malach HaMavet de tuer les premiers-nés, lui, il ne fait pas la différence entre les premiers-nés des Bnei Israël et les premiers-nés des Mitzrim. Donc les Bnei Israël sont considérés comme en danger. Il va falloir faire quelque chose pour les sortir de ce danger. Si vous voulez la preuve que les premiers-nés des Bnei Israël étaient en danger, c'est quoi? C'est que Erev Pessah, les premiers-nés, ils jeûnent. Pourquoi ils jeûnent? Ils jeûnent parce qu'ils ont été sauvés. Eux, premiers-nés, ils ont été sauvés. Ils étaient en danger, ils ont été sauvés. C'est pour cette raison qu'on jeûne Erev Pessah. Les premiers-nés jeûnent à Erev Pessah. Non, ils étaient? Eux, où qu'ils soient, ils sont justement. Ce qui s'est passé, c'est que même s'ils restent dans la maison, là, le Midrash, il dit que les mères des enfants des Égyptiens, qui étaient copines avec leur voisine juive, elles ont dit, écoute, on sait que votre Dieu, il va tuer les premiers-nés, il va tuer ceux qui sont chez nous. Est-ce que je peux mettre Toufik dans le lit de Yankee? Et on a mis Toufik dans le lit de Yankee. Toufik est mort et pas Yankee.
Mais Rav,
Oui.
pourquoi il n'y avait pas de distinction entre les premiers-nés? Quel est l'enseignement du fait
J'ai
que
dit parce que
maintenant.
le principe, c'est que n'y a pas de différence à partir du moment où on a donné la possibilité au Malach HaMoved de fonctionner, il ne fait pas la différence.
Oui,
C'est la
mais
règle, c'est comme ça. Et donc, il a fallu qu'Hachem intervienne lui-même, on va parler de ça, il a fallu qu'Hachem intervienne pour sauver les Bnei Israël, enfin sauver les premiers-nés des Bnei Israël. Et sinon, on aurait été à la même enseigne que les premiers-nés égyptiens. Donc, 2 jours, les Bnei Israël vont pouvoir se déplacer, vont pouvoir bouger, etc. Mais de nuit, la libération, elle est limitée. Ils sont confinés. Le Sforno, il a traduit, Moshe Rabbeinu lui a dit, je ne partirai, il a dit à Paro, je ne partirai pas quand toi tu le demandes, je partirai plus tard, ce matin, quand je voudrai. Dans la suite, dans ce Sefer Dvarim, de plusieurs endroits, la Torah, elle met l'accent sur le fait que la sortie d'Égypte a eu lieu de nuit. Hachem vous a sorti de nuit. Avec cette même idée que de nuit, on ne fait pas la guerre. De nuit, normalement, la nuit, ce n'est pas un moment de liberté. C'est presque contradictoire. La nuit, c'est la galoute, c'est la nuit, c'est l'exil, c'est. Et là, Hachem vous a sorti à contre-temps, si on veut parler, par rapport au cycle de jour-nuit du monde. En fait, si on y regarde un peu plus près, les trois dernières Makot ont toutes à voir quelque chose, à voir un peu avec la notion d'obscurité, en fait. La huitième, c'est les sauterelles. Sur les sauterelles, c'est marqué qu'elles vont couvrir l'œil de la terre. L'œil de la terre, l'œil ne verra rien, ne pourra plus voir. C'est l'obscurité. C'est vrai qu'il y avait une densité de sauterelles absolument faramineuse. D'abord, elles bouffaient tout ce qui restait après, tout ce qui restait après la grêle. Ça y est, elles étaient partout. Les ténèbres, évidemment, c'est l'obscurité, c'est des ténèbres qui étaient, comme on a dit, palpables. C'est palpable, et celui qui était assis ne pouvait pas se lever, celui qui était debout, qui avait tendu le bras, son bras restait paralysé. Et dans la dernière Maka, celle des premiers, d'abord elle a lieu dans la nuit, elle a lieu à minuit, mais le mot Laïla, il est répété au moins 4 fois dans ce moment-là. Là, il a sans arrêt le leitmotiv. Alors, bien sûr, la différence entre jour et nuit. Ce qu'on veut, pardon. La différence entre le jour et la nuit, c'est est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on ne se voit pas, quoi. On voit l'autre. C'est quand même cette idée que, d'une certaine manière, dans la nuit, c'est aussi un moment où on ne voit pas l'autre. Ça veut dire l'autre n'existe pas. Alors, les sauterelles et les ténèbres, ça concernait bien sûr spécifiquement les Mitzrim, les Égyptiens. Mais les premiers-nés, ça concerne, on vient de le dire, ça concerne aussi les Bnei Israël qui sont confinés, qui entendent des pleurs, des cris, des bruits, toutes sortes. Et ils ne peuvent pas sortir pour aller voir ce qui se passe. La plaie des sauterelles ou la plaie des ténèbres, c'est l'horreur pour les Égyptiens. L'horreur complète. Cette idée que dans la plaie des ténèbres, qui dure 3 jours, je en chiot, je t'ai appelé, appelle-moi à 5 heures de chez toi. Ok, d'accord. ne pas pouvoir bouger, cette espèce de rigidité, ça fait référence d'une certaine manière à la rigidité de Paro. Paro, c'est un être ultra rigide, parce que tous ses conseillers, les magiciens, etc., lui ont dit depuis longtemps qu'il fallait céder. Et il cède pas. Il est complètement rigide. Dont la rigidité, elle se reflète dans la maca. Mais quand cette rigidité, elle fait que, par exemple, on ne peut pas revenir en arrière. Si on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer d'avis, on ne peut pas faire tchouva. Ça, cette idée qu'il ne peut plus revenir en arrière. Cette rigidité l'empêche. Et puis d'un autre côté, à la terreur en question, on ne peut pas répondre puisqu'on ne peut pas bouger. Dans le Tantrouma, il parle de Tsalmavet. Tsalmavet, ça veut dire l'ombre de la mort. C'est les ténèbres de la mort, si on veut, par opposition à l'ordre du monde. C'est-à-dire que dans le Rocher, dans les ténèbres, il y a une espèce de chaos, c'est une cécité pour les gens, c'est la mort. Et pour l'Ebné Israël, il y a aussi une dimension, comme on l'a dit. Il n'y a pas dans recherche, mais dans la dernière, dans la préparation de la dernière plaie, il y a aussi une forme de terreur, parce qu'effectivement, les premiers-nés sont en cause. Et puis, les Bnei Israël sont un peu en prison, quoi, confinés, non. Et puis, ils vont avoir à manipuler le sang. Essentiellement, d'abord, le sang du Pessah qu'ils vont faire. Il va falloir badigeonner les poteaux et les linteaux avec ce sang. On va y revenir là-dessus. Et puis, il y a la Géoula. Alors, ce sur quoi je voudrais parler maintenant, c'est quelque chose d'assez étonnant. Parce que si vous regardez si on regarde le texte, on s'aperçoit de la chose suivante. Les Bnei Israël, ils ont reçu une mitzvah de faire quelque chose avec un agneau, etc. C'est quoi cette mitzvah? Les Bnei Israël, Hachem a décidé qu'il allait sortir d'Égypte. Mais vous savez bien que la raison pour laquelle il sort d'Égypte, c'est parce qu'Hachem avait promis aux Avot, en particulier à Avraham Avinu, dans la fameuse vision qu'il a eue au moment de Brit Ben Abtarim, au moment de l'alliance entre les morceaux, où il a eu cette vision où Hachem lui a proposé de choisir entre la mort et l'exil. Il a choisi l'exil et Hachem lui a dit, alors tes enfants, ils seront esclaves pendant 400 ans dans un pays, etc. Ils vont souffrir. Vegam et Agoy. Mais le peuple qui les a asservis, je vais le juger. Ils vont payer aussi. Et, deuxièmement, les Bnei Israël vont sortir de là avec Rechush Gadol, c'est-à-dire un grand butin. Alors, on va revenir sur chacun de ces termes. Donc, Hachem a décidé, puisqu'il avait promis que les Bnei Israël allaient sortir, donc il faut les sortir. Maintenant, le problème, c'est que les 400 ans, a priori, pour beaucoup de commentateurs, presque tous, les 400 ans, ils n'ont pas eu lieu. On n'est pas 400 ans en Égypte. Si on compte 400 ans, alors il faut commencer à compter depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Bon, alors c'est vrai que Yitzhak, c'est puisqu'on avait annoncé que les descendants allaient être, donc d'avoir cette Xéra sur soi, on peut dire que commence l'exil. C'est une forme d'exil. Il n'est pas détaché de tout souci. Il le sait que son père a eu cette vision, etc. Mais bon, de facto, on est resté en Égypte en tout et pour tout 210 ans. Et même pendant ces 210 ans, on n'a pas été 210 ans esclaves. Duré 83 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais on est sorti prématurément. Et pourquoi est-ce qu'on est sorti prématurément? Eh bien, si on regarde le texte, on comprend bien, c'est marqué que les Bnei Israël, ils sont sortis Hamouchim, ils sont sortis, un cinquième des gens étaient prêts à sortir et sont sortis. Un cinquième, 20%. Ça veut dire que si on était resté plus longtemps, il n'y avait plus personne pour sortir. Il y avait une assimilation qui était telle qu'ils ne voulaient plus sortir. Pourquoi ils ne voulaient pas sortir? Parce qu'on leur propose quelque chose d'impensable. Personne n'est jamais sorti d'Égypte de cette manière-là. Tout un peuple va sortir d'Égypte. On est complètement intégré dans l'Égypte. Puis je voudrais peut-être donner une petite explication sur le fait que par la suite, on voit que les Bnei Israël n'arrêtent pas de dire on veut retourner en Égypte, on était bien là-bas, on est à Dagar, on se souvient de poisson, que la bouillabaisse qu'on mangeait, etc. Et gratuitement et tout. Ils sont cinglés ou quoi? Ils étaient esclaves, qu'est-ce que ça veut dire, ils mangeaient? Il faut penser, il faut se souvenir, parce que les Makot, elles ont duré un an. L'ensemble des Makot s'est réparti sur un an. Et durant la période des Makot, les Bnei Israël n'étaient plus, ne travaillaient plus pour les Égyptiens. Ils étaient en Égypte, formellement ils étaient esclaves, mais ils travaillaient plus. Donc on peut imaginer que voilà, quand ils parlent de retourner en Égypte, ils veulent pas du tout dire on va retourner esclave. On va retourner à la situation dans laquelle on était en Égypte. On vivait normalement. Bon, alors on n'était peut-être pas spécialement vu, on était peut-être des citoyens de seconde classe, ce qu'on veut. Bon, mais il y avait à manger et on était libre. On n'avait pas besoin de faire des mitzvot. On n'avait pas de mitzvot. On avait arrêté même la Mila. On avait arrêté de faire. Seule mitzvah qu'ils avaient, qui les distinguait des Égyptiens, c'était la Mila. Et ça aussi, ils ont arrêté de le faire. Donc, quand ils disent on va retourner, je pense que c'est à ça qu'ils pensent. Parce que sinon, c'est un peu débile. Mais ça, bon, ça s'entend. Et c'est la raison pour laquelle les autres ne voulaient pas sortir. C'est pas si terrible, on n'est plus, on travaille plus, c'est. Donc ça, c'est ce qui ressort du texte. Arrive au XVIe siècle, arrive le Harizal. Le Harizal, il explique la même chose, si vous voulez, mais en termes de la Kabbalah. Et il dit, les Bnei Israël, en Égypte, ils ont atteint un certain degré d'impureté. Alors, il y a une notion d'impureté, elle existe dans la Torah. On n'a pas attendu le Harizal pour ça, ça existe dans la Torah. Et même si, je pense, à ce moment-là, on l'a pratiqué plus tellement, très, très difficile, tout ça à la fois de Touma et de Tahara, mais la notion d'impureté, elle existe, et le Harizal était particulièrement sensible, et il a dit que les Bnei Israël en Égypte, ils avaient atteint ce 49e degré d'impureté, et il faut savoir qu'il y en a en tout et pour tout 50, et quand on touche le 50e, c'est la mort. Parce que le summum de l'impureté, c'est le corps mort. Avi avot hatouma, c'est le corps d'un juif mort. Donc c'est ça qu'il veut dire. Ça revient au même que dire qu'il n'y aurait plus personne pour sortir. Ça veut dire qu'ils étaient spirituellement morts. S'ils étaient presque morts, 20% pouvaient encore s'en sortir, avec toutes les récriminations qu'ils vont faire après. Mais bon, eux, ils sont sortis. Ils étaient d'accord de sortir, ce qui était une chose un peu folle, parce qu'Hachem va dire par l'entremise du Navi Yirmiya, Jérémie va dire passage que tout le monde connaît, Zahar Tilach, Chesed Nehoraïr, Hachem dit, je me souviens en ta faveur du Chesed, de la générosité que tu as manifestée pour moi. L'Erter Chahar Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. Le clan d'Israël a suivi Hachem dans le désert. Il faut être fou. Non, c'est-à-dire, c'est même difficile de comprendre. C'est vrai qu'il y a eu tous ces nissim, etc. Toutes ces manifestations, ces nissim. Mais les nissim, ce n'est pas quelque chose qui vous incite à aller dans un endroit où, vous verrez, on ne voit pas ni comment on va manger, ni comment on va boire, ni comment on va se vêtir, ni comment on va résister aux tribus, je sais pas, un nomade qui se balade dans le désert, etc. Aucune idée. Aucune idée. Hachem ne leur a pas dit, je vous promets que vous aurez à manger, à boire. Mais il ne leur a rien dit du tout. Donc les Bnei Israël allaient sortir, devaient sortir parce qu'Hachem l'avait promis. Seulement, comme je vous ai dit, cette dette, si on peut parler comme ça, qu'Hachem avait à l'égard du clan d'Israël de les faire sortir à un moment donné. Et que bon, maintenant je suis obligé de les sortir maintenant parce que sinon personne ne sort. Alors, la vérité, c'est que sortir prématurément, ça veut dire qu'on reste en dette. Ils sont en dette de 190 ans d'esclavage. Les dettes arrivent toujours un jour où il faut les payer. Alors, une façon de payer ces dettes, ça va être les quatre exils supplémentaires. Les exils qui vont venir après. En fait, Chazal disent que Moshe Rabbeinu n'était pas d'accord. Une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu ne voulait pas faire sortir les Bnei Israël à ce moment-là, c'est qu'il ne voulait pas qu'on reste en dette. Lui, en quelque sorte, il disait à Hachem, au lieu de faire un miracle de sortir le peuple prématurément, parce que c'est, vous connaissez le passage qui dit, Lakachat lo goy mi kerev goy. Il faut prendre un peuple au sein d'un autre peuple. C'est pas que le clan d'Israël, il était, si vous voulez, comme un espèce de paquet à l'intérieur du peuple. Il était complètement assimilé, il était un peu partout. Donc il fallait les sortir d'une gang, littéralement, arracher chacun d'entre eux, quoi. Alors mon cher Abel me disait, fais un miracle, donne-leur la force de résister encore 190 ans, et c'est fini après, quand ils sortent, c'est la Géoula finale, on n'a plus besoin d'en passer. Et pour des raisons que je ne connais pas, jamais vu d'explication de cela, Hachem n'était pas d'accord. Hachem n'était pas d'accord du fait de changer ces choses-là. Hachem a décidé qu'ils vont sortir maintenant. Seulement, il y a quand même une règle, qui est que Hachem, pour faire quelque chose d'aussi énorme que de sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, il faut que les Bnei Israël fassent eux aussi quelque chose de leur côté. Or, il n'y a rien, il n'y a pas de mitzvah. Alors Hachem va leur donner deux mitzvot. Les deux mitzvot, vous les connaissez, il leur a donné la mitzvah de Mila et la mitzvah de ce qu'on appelle le Korban Pessah. Bon. Alors en vérité, ce n'est pas vraiment deux mitzvot indépendantes, parce que pour pouvoir manger du Korban Pessah, il faut avoir fait la Mila. D'autre part, la Mila, alors, c'est une mitzvah, donc il faut obéir. Mais d'un autre côté, la Mila, qu'est-ce qu'elle dit? La Mila, ça rattache à Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui a eu le premier la mitzvah de Mila. Donc faire la Mila, c'est se rattacher, c'est se fabriquer des ancêtres, en fait. Se rattacher à des ancêtres, c'est-à-dire, à la limite, si les Bnei Israël doivent sortir à cause de la promesse faite à Abraham Avinu, il faut que les Bnei Israël aient un lien avec Abraham Avinu. Ils ont coupé le Rambam dit qu'en Égypte, on avait pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Seule la tribu de Lévi avait encore des restes. Mais les autres avaient tout oublié. Donc ils n'avaient aucun lien. Abraham Avinu, on ne connaît pas. Et donc par la Mila, on les raccroche à Abraham Avinu. Ça, c'est une première mitzvah. Et donc, avant la sortie d'Égypte, mon cher Rabbeinu a dû organiser la Mila de tout le peuple. Et puis, ils ont reçu une deuxième mitzvah. Cette deuxième mitzvah, elle est étrange. On dit qu'ils ont reçu le Coran Pessah, mais ils n'ont pas reçu le Coran Pessah. Ils ont reçu une mitzvah. Achodesh Hazelachem, Hachem leur a dit, ce mois-ci, le mois de Nissan, sera le premier des mois de l'année. C'est-à-dire, vous aurez un deuxième calendrier qui va exister en parallèle avec l'autre. On a un calendrier comme tout le monde qui commence en automne. Tishri. Rosh Hashanah, Tishri, etc. Et puis, on a un autre calendrier qui, lui, commence au printemps, Achodesh Hazelachem. Rosh Chodashim. Et il dit, le 10 de ce mois, 10 de ce premier mois de l'année, vous allez prendre un agneau par maison, sens large du terme, et vous allez accrocher cet agneau au montant de votre lit. Quand les Égyptiens vont vous demander, mais c'est quoi cet agneau-là que vous avez accroché au montant du lit, vous allez leur dire, eh bien voilà, nous avons reçu mitzvah, un commandement, d'égorger cet agneau en l'honneur d'Hachem. Voilà, pour bien comprendre de quoi il s'agit, juste faire une petite expérience dans votre tête. Vous remplacez l'agneau par les vaches, vous vous déplacez en Inde, vous accrochez la vache au montant de votre lit, et quand l'hindou de service vous demande c'est quoi cette vache, vous lui dites on va faire un méchoui avec ta vache. Probablement que vous finirez pas la phrase avant qu'il vous ait coupé la tête, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut s'imaginer, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. C'est une provocation. L'agneau, c'est une divinité, c'est une divinité égyptienne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On annonce publiquement aux Égyptiens que on rompt radicalement avec leurs idoles, avec une de leurs idoles, et on va la manger. Donc, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils montrent qu'ils s'éloignent de l'idolâtrie. Qui est-ce qui a fait le premier pas pour s'éloigner de l'idolâtrie? C'est Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui a commencé à dire, reconnaître Hachem. Donc, par là aussi, il se rattache à Abraham Avinu. Donc, ces deux mitzvot-là rattachent le clan Israël à Abraham Avinu. Et donc, ça a un sens de dire que, en sortant ce peuple-là, on fait quelque chose qui a été promis à Abraham Avinu. Si on sort un peuple qui n'a rien à voir avec Abraham Avinu, purement, même si biologiquement ils ont quelque chose à voir avec Abraham Avinu, puisque c'est les descendants de Yaakov qui est le descendant d'Abraham Avinu. Mais bon, la biologie, très bien, Bon, mais si spirituellement, ils n'ont rien à voir avec Abraham Avinu. Donc vous voyez, ces deux mitzvot-là, elles ont pour fonction de rattacher le peuple à Abraham Avinu. Ok, donc ça va avoir un sens de sortir ce peuple. Maintenant, ils savent qu'il faut l'égorger pour Hachem. Et alors Hachem va leur donner des lois. Il va dire, voilà maintenant, pendant 4 jours, vous allez examiner cet agneau pour être sûr qu'il n'a pas de défaut. Et le 14, après-midi, vous allez l'égorger. Puis ensuite, vous allez le griller, ah pardon, vous allez recueillir le sang, écoutez, et vous allez prendre ce sang et vous allez en badigeonner les poteaux et les linteaux à l'intérieur de vos maisons. Et le passouk dit, c'est Hachem qui parle et dit, je verrai le sang, etc. Bon, alors on a l'impression que le sang, c'est un signe pour Hachem. Alors d'abord, le sang, il est à l'intérieur des maisons et pas à l'extérieur. Évidemment qu'Hachem n'a pas besoin, quoi. Il n'a pas besoin d'un indicateur qui dit cette maison oui, cette maison non, etc. C'est évidemment pour les Bnei Israël, pour qu'ils sachent pourquoi eux, finalement, ils sont épargnés. Mais surtout, Rashi, sur ce verset, je verrai le sang, Rashi ne traduit pas du tout, je verrai le sang par, Hachem va regarder le sang. Rashi explique, Rashi traduit, je saurai, en regardant le sang, je saurai combien vous êtes attachés à mes commandements. Et alors, je sauterai par au-dessus de vos maisons, donc j'épargnerai. Je vais faire quelque chose qui va épargner, empêcher le machrit de tuer vos premiers-nés avec un sceau. Donc vous voyez, ce sceau-là, il est présenté non pas comme le sceau qui aurait eu lieu au moment, mais il est présenté comme une annonce. Voilà ce que je ferai. Alors vous allez, on leur dit tout ça, le premier Nissan, on leur dit, voilà, le 10, vous ferez ça, le 14, vous ferez ça, et quand vous aurez fait ça, alors le ça veut dire, vous allez égorger l'agneau en question, vous allez recueillir le sang, faire ce que je vous ai dit, de faire, et puis ensuite vous allez prendre cet agneau et vous allez d'une certaine manière le griller complètement à cœur et vous allez le manger et le manger vous n'allez pas vous installer à table pour le manger, vous allez le manger sur le seuil de vos maisons juste avant de partir, donc en fin de matinée, en fin de nuit quoi. Avant le matin, là, vous allez partir, vous allez manger cet animal-là, grillé, en fait, c'est une grillade, et vous allez le manger avec des matzot, et vous allez le manger avec des herbes amères. Donc, tout ça, ce sont des dinim, des lois. Des lois qui sont énoncées avant et qui vont être réalisés, effectivement. Les Bnei Israël vont faire ce qu'Hachem leur a prescrit, et vous mangerez dans la hâte, c'est-à-dire il faudra manger vite. Alors, manger vite, cette hâte, ça se dit manger dans la béhala, et Rashi traduit non pas la hâte, mais la panique. Vous allez le manger dans une panique. Panique, ça veut dire, c'est pas seulement on mange vite, mais tranquille. La panique, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le moment où on va sortir d'Égypte, mais on n'a aucune idée comment. Personne ne le sait, même après coup, on ne sait pas du tout comment ils sont sortis. Bon, le soir du Seder, on va raconter la sortie d'Égypte, mais il n'y a pas un mot sur la sortie elle-même. Ça, on raconte ce qu'il y avait avant la sortie, et on raconte ce qu'il y a après la sortie. Mais il n'y a pas de zoom sur la sortie. Bon, vous n'avez aucune photo de 600 000 clients qui sont en train de franchir la frontière égyptienne, bon, avec armes et bagages, avec toute la famille, avec des armes, archi chargées, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de photo. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de photo. Rien du tout. On n'a aucune information sur comment ça s'est passé. Bon, en plus, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire sortir tout le temps. Même l'armée américaine aujourd'hui, elle ne peut pas faire ça. Sortir en une nuit 600 000, enfin, 3 millions de personnes avec tout. C'est pas possible. Et donc, on ne nous dit pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé, mais on ne sait pas comment. Est-ce qu'ils sont passés dans un autre monde et ben, ils sont revenus? Ben, on ne sait rien. Et donc, ils ont reçu cette mitzvah, ces deux mitzvot. Il se trouve que ces deux mitzvot ont à voir avec le sang. Dans la Mila, il y a du sang qui va couler. Et dans le Corban, il y a du sang qui est recueilli et qui sert à badigeonner. Et après que les Bnei Israël aient reçu cet ordre, etc., quand les lois sont terminées d'être énoncées, alors Hachem dit, ce truc-là que vous avez mangé, cet agneau que vous avez mangé, on va l'appeler Pessah. On va l'appeler Pessah. Il n'a de nom qu'après qu'on l'ait mangé, après qu'il l'ait mangé. C'est pas vous allez manger le Pessah. Le nom de Pessah, il est donné après coup. Et premièrement. Et deuxièmement, ce Pessah-là, il va être ritualisé, si vous voulez, il va devenir le centre d'une fête qui va être une fête fêtée par les Bnei Israël toutes les années. Cette époque-là, toutes les années, on va refaire le coup avec un peu de modification, et cette fois-ci, ça sera un corban. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y aura de différent? Il va être mangé comme l'autre, sauf que dans un corban, quand on fait un corban qui va être mangé, alors là aussi on recueille le sang, mais on ne badigeonne pas les poteaux et les linteaux. On va prendre du sang et on va faire des petites aspersions avec ce sang sur le misbéhar, sur l'autel. On va avoir un mishkan, il y aura un autel, un misbéhar, et après on aura un bet hamigdash où il y aura un autel, etc. Donc les gens vont faire ce travail-là. On va prendre un petit peu des entrailles de l'animal, on va les griller on va les mettre sur l'autel, ça va brûler. Et puis, les gens pourront prendre le corban en question, la viande en question, et aller la griller chez eux à la maison, avec le groupe de gens. Parce que ce corban, il est un peu spécial. Parce que dans les korbanot, il y a ce qu'on appelle korban tzibour et korban yachid. Il y a le korban de la collectivité et le korban des individus. C'est-à-dire, par exemple, à Shabbat, toutes les fêtes, tous les jours, on apporte au Beth Amikdash un korban pour la totalité du clan Israël. Un korban pour tout le monde. Il s'appelle un korban tzibour, un korban qui est acheté avec l'argent qu'on a récolté. Il y a une mitzvah qui s'appelle martita shekel, un demi shekel, etc. Bon, avec une caisse commune là, on achètera les animaux dont on aura besoin pour tous les korbanot tzibour. Et puis il y a les korbanot du yachid, c'est-à-dire ou bien que les gens ont envie de donner un korban, parce qu'ils en ont envie, ou bien parce que la Torah leur a prescrit d'en donner un. Torah, elle a prescrit qu'une femme qui accouche, elle doit porter un corban. Et quelqu'un qui a fait une faute dans certaines circonstances, il doit porter un corban. Il y a aussi des corbanes qu'on a décidé volontairement d'apporter. Alors, dans le mot corban, il n'y a rien de ce qu'il y a dans le mot sacrifice. Dans le mot corban, la racine, vous la connaissez, c'est karov, koufresh bet. Karov, c'est un processus de rapprochement. Pourquoi il faut se rapprocher? Parce qu'on s'est éloigné. Ou bien je me sens éloigné, j'ai besoin, j'ai envie de me rapprocher. Et comment on se rapproche? Ben, la Torah nous a dit, si tu veux t'approcher, voilà comment on s'approche. Encore pas. Ou bien c'est la Torah qui a dit que, voilà, ta conduite, pour les circonstances dans lesquelles tu t'es trouvé, t'ont éloigné, maintenant tu dois te rapprocher. C'est-à-dire, ou bien j'en ai envie parce que je sens que je suis éloigné, ou bien la Torah m'a dit, tu es éloigné, ou en tout cas, tu dois te rapprocher. Parce qu'une femme qui a accouché, elle n'a pas fait de mal, elle n'a pas fait de faute, et pourtant, elle apporte un corban quand même. Non, c'est parce que, bon, il y a des raisons. À chaque fois, il faut la chercher des raisons. Mais le corban Pessah, il est un peu spécial. Parce que ce n'est pas un corban sibour. La preuve, c'est que on va l'apporter. Il y a plein de gens qui vont apporter le corban. Tout le monde, en principe, va apporter le corban. D'une part, donc ce n'est pas un corban sibour. Ce n'est pas un corban yachid parce que tout le monde apporte le même, au même moment, à la même époque et le même soir, le même jour. Même jour, parce que le soir, le Beth Amigdash est fermé. Alors, c'est un corban un peu spécial. Alors, ce corban un peu spécial, il n'est pas apporté par un tzibour, mais vous vous souvenez ce qu'Hachem avait dit au Bnei Israël en Égypte, il leur a dit, vous allez prendre le 10 du mois, vous allez prendre un agneau, je vous avais dit, par maison. Et là-bas, on explique, un agneau par maison, ça veut dire, cet agneau-là, il va falloir le manger. Et vous allez le manger sur le point de départ. Donc, on ne va pas accommoder les restes le lendemain. Donc, il faut tout manger. Donc, il faut calculer combien de gens vous serez pour le manger. Donc là, alors si effectivement, vous n'êtes pas assez nombreux pour manger un agneau, alors ben, vous allez vous associer avec les voisins, avec la famille, etc. Vous allez créer un petit groupe. Bien ça, on va refaire la même chose comme Corban. On va fabriquer un groupe. C'est-à-dire qu'il faut le 14 dans l'après-midi, avant qu'on puisse faire la shmita, il va falloir acheter un agneau. On va l'acheter plus tôt, mais, parce qu'il fallait le regarder. Mais quand on l'a acheté, il a fallu se mettre d'accord pour que chacun contribue à l'achat. Et disent, ben voilà, moi, je veux participer à ce groupe. Et donc, là aussi, quand ça sera un corban, on va aussi le manger dans la hâte. Mais on va le manger rapidement, dans la hâte, mais on va le manger à la fin du repas, quand on est complètement rassasié. La viande du corban de Pessah, ce n'est pas la viande qu'on mange le soir de Pessah. Lors du Pessah, on mange une tragigarme, la viande de la fête. Et après avoir terminé, quasiment terminé le repas, on va manger. Et comme il faut manger alors qu'on est déjà rassasié, on ne peut plus manger beaucoup. Donc on va manger la grosseur d'une olive. Disons que la grosseur d'une olive, ça soit 30 grammes de viande. Chacun va manger 30 grammes de viande. De cet agneau grillé, etc. C'est tout. Et pour être sûr, justement, qu'on ne va pas en laisser, puisque dans un corban, il y a aussi une règle générale, que un corban, ça a de la kdoucha. Il faut savoir, la kdoucha, elle s'exprime toujours par des limitations dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, Il faut le manger dans des limites d'espace. Le korban. Les korbanot qu'on mange à Yerushalayim, donc manger sur le Beth, sur le Harabait, la montagne, enfin, sur le mont. Ah, bon. Et puis, on a des temps pour le manger. Il y a les korbanot où on a un jour et une nuit pour le manger, d'autres, on a 2 jours et une nuit, par exemple. Mais on peut pas, au-delà, on peut pas. Au-delà, s'il en reste, alors ça s'appelle reste. En hébreu, reste, ça se dit notar, il reste. Et le notar, il est interdit de consommation. On n'a pas le droit de le manger. Et si on venait à en manger, c'est très, très grave. C'est très grave, karet. Donc, s'il en reste, il faut le brûler. Faut pas qu'on, par erreur, on en vienne à le manger. Et normalement, on doit se débrouiller pour qu'il n'en reste pas. Donc, pour qu'il n'en reste pas, dans le groupe qui achète le corban, on va dire, voilà, on a fait le compte, on est 300. 300 mangeurs de... Bon. Et donc, s'il faut qu'on ait 30 grammes par personne, donc on a besoin de 9 kilos de viande. 9 kilos de viande à manger. Alors, maintenant, il va falloir savoir combien de viande nous donne un agneau de X kilos. On m'a dit que c'est pas plus que 60%. Donc, ça veut dire que va falloir prendre, disons que c'est 50%, donc il va falloir prendre un agneau de 18 kilos, il va nous donner Il va nous laisser 9 kilos de viande. Et à 300, on aura tout mangé à la fin du temps réglementaire. Le temps réglementaire pour manger le korban pessah, ça fait l'objet d'une marloquette. Il y a une opinion qui dit on doit manger ça jusqu'avant Khatsot, avant minuit, et d'autres qui disent doit le manger jusqu'au matin. Donc, en tout cas, le matin, d'après tout le monde, il faut l'avoir terminé. Donc, ça, c'est le Korban Pessah. Vous voyez, il ressemble beaucoup au Korban, qui n'était pas un Korban, à ce qu'ils ont mangé, qu'on a appelé Pessah, etc., en Égypte. Alors, je reviens sur le fait que ça a à voir avec le sang. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir pris deux mitzvot qui ont à voir avec le sang? Bon, c'est vrai que ce sont deux mitzvot qui nous rattachent à Avraham Avinu. Mais bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu en trouver d'autres? Peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a un autre sens. Quand Moshe Rabbeinu a discuté avec Paro, à chaque fois après chaque plaie, il se plaignait, voilà, je vais faire ce que vous avez dit, etc., mais arrêtez la plaie. Alors, Moshe Rabbeinu, il arrêtait, il priait, on arrêtait la plaie. Et évidemment, il ne laissait pas partir. Alors, il négociait, une fois, il disait, oui, mais partez seulement les hommes, ou bien seulement les adultes, mais pas les enfants, et pas les troupeaux. Et... À peu près toutes les combinaisons possibles. Et à un moment donné, il dit, mais vous voyez, les astrologues disent que le thème astral de Bnei Israël, dans le thème astral de Bnei Israël, il y a, aujourd'hui on dirait comme ça, la planète rouge en plein milieu. Eux, ils disent, ça s'appelle Ra'a, dans le mal, quoi. Et quand on a ça dans le thème astral, ça veut dire qu'il va y avoir du sang versé. Il va y avoir des morts, etc. Alors, Paro leur dit, vous ne devriez pas prendre vos enfants comme vous voulez le faire, parce que c'est dangereux. Donc, laissez les enfants, n'allez que les adultes. De toute manière, vous dites que vous allez pour servir votre Dieu. Ben, servir votre Dieu, ce n'est pas les bébés qui vont aller servir Dieu, quoi. Bon, alors, évidemment, mon cher Abin a dit, on partira tout le monde, mais Il y a quand même cette menace, là, elle est là. Et dans la Torah, on voit que ce genre de discussion basée sur l'astrologie, etc., on en tient compte. Ce qui était annoncé, c'est qu'il va y avoir un sang de mort. Comment entraîner le sang de mort? Ce que on fait, ce qu'Hachem a fait faire, il a fait faire des mitzvot avec le sang, quelque part, c'est-à-dire on a versé un sang de vie. Le sang du Korban Pessah, il sert de badigeon, il sert à sauver la vie des premiers-nés. La Mila, c'est faire une alliance avec la source de vie, c'est-à-dire avec Hachem. Donc on a remplacé le sang de mort en un sang de vie. De facto, aujourd'hui, quand on fait une mila d'un enfant, on dit après la mila, on dit un texte et on dit un verset de Yeheskel, du Navi Yeheskel, il dit Bedamaïr Trahi. Donc, par ton sang, vie. C'est un sang de vie. Ce sang qu'on a fait couler, c'est un sang de vie. Alors, évidemment, on vérifie que ce sang est vraiment un sang de vie. C'est-à-dire que si on avait affaire à des hémophiles, on ne va pas faire la mila parce que ça coagule pas et donc c'est un danger public. Donc, les gens qui sont hémophiles, a priori, on leur fait pas la mila. Aujourd'hui, on peut peut-être le faire parce qu'on a des moyens de lutter contre l'hémophilie, mais avant, on ne le faisait pas. Dans la Gemara, on parle de gens dont on pas fait, des familles dans lesquelles on ne faisait pas la Mila parce que les enfants en question étaient dans une famille d'hémophiles. À ce moment-là, ça deviendrait un sang de mort, quoi. Il ne faut pas l'arrêter, donc. Et donc, vous voyez, ce qui est important là, c'est que c'est comme si on peut pas faire l'économie de tenir compte. Alors, on pourrait très bien dire, bah, alors Hachem nous sort et puis tant pis, il va pour, il y a une menace de mort, mais on n'en tient pas compte. Non, on en tient compte. Seulement, il faut transformer la mort en vie. On va transformer ce sang de mort en un sang. Ça veut dire qu'en réalité, si quelqu'un naît sous une espèce d'étoile, enfin de patronage, je ne sais pas, de rouge, sang, etc., alors on ne peut pas faire comme s'il était né sous du bleu, supposé que ça existe. Non, il faut tenir compte de ce que c'est à faire avec du rouge. Seulement dans le rouge, comme dans toutes les notes, on a la totalité de tous les comportements, du plus grossier au plus fin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est disons, une planète rouge, disons, d'influence, il peut devenir bandit des grands chemins, assassin, etc. Il peut devenir, je sais pas, chochet, boucher. Il peut devenir Moël. Donc, il y a toutes sortes de métiers qui ont à voir avec le sang, depuis le plus grossier au plus fin, quoi. Moël, c'est avec le sang, mais c'est vraiment le sang de vie, quoi. Alors, les Bnei Israël ont été invités justement à faire quelque chose qui a à voir avec c'est la Mila et la Shrita. Et donc, d'une certaine manière, on a tenu compte de cet avertissement de Paro, mais pas pour faire ce que lui disait, pour l'interpréter différemment, faire quelque chose de positif. Ce qui est important, c'est donc le saut en question. C'est ça veut dire sauter, oui. C'est mieux en anglais, passe au bas, ça s'entend mieux que ça, quand on n'a pas. Qu'est-ce que ça veut dire, pas. Veut dire que Hachem a sauté par-dessus les maisons. Et c'est tellement important qu'il voulait que c'est ça qui a donné son nom à la fois à ce qui va devenir le Corban et à la fois à la fête en question. Donc cette chose très importante, quand on en parle le soir du Seder, en vérité, le Corban Pessah, chez nous, on ne le voit pas tellement, on n'a pas de corban, on va tout de suite en parler. Mais en fait, c'est le centre de la fête. Cette fête, elle a deux noms. Elle s'appelle Pessah, mais elle s'appelle Chag HaMatzot aussi. C'est la fête des Matzot. C'est la fête des Matzot, mais là encore, tu as fait des matzot parce que si tu veux manger du pain, tu es obligé de manger des matzot. Mais tu n'es pas obligé de manger des matzot. Sauf le soir du Seder. Tu as une mitzvah de manger un kezaït, ou deux, peu importe, un tout petit peu de matzah. Le reste du temps, si tu veux manger autre chose, tu manges autre chose. Pourvu que tu ne manges pas du Hametz, c'est ce que tu veux. Pas d'obligation de manger de la matzah. Certains disent que si on en mange, c'est une mitzvah. Ça s'appelle une mitzvah kiyumit. Une mitzvah qu'on accomplit en la faisant. Elle devient mitzvah quand on la fait. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, quelques mots là sur le Korban Pessah. Dans le Korban Pessah, il y a en particulier un interdit de posséder du Hametz quand on fait le Korban Pessah. Alors, ça va être étendu, on n'aura pas le droit d'avoir du Hametz pendant tous les jours de la fête de Pessah, même de le posséder, même s'il n'est pas chez moi, mais je le possède dans ma résidence secondaire ou dans un entrepôt ou ailleurs, on n'a pas le droit de posséder du Hametz. On va manger les matzot. Ces matzot, c'était en vérité le pain que les Égyptiens nous donnaient à manger. Parce que en nous donnant des matzot, ils nous donnaient un pain qui n'avait pas d'eau. Il n'y a pas le processus de fermentation n'a pas eu lieu. Un processus de fermentation qui a lieu avec on n'a pas tel lève, etc. C'est un processus de fermentation. Et ce processus de fermentation, si vous voulez, il est très important parce que quand vous mangez du pain, dans la digestion, vous n'avez pas besoin de faire ce travail. Il a déjà été fait dans la fabrication du pain. Quand tu manges de la matzah, il faut faire ce travail-là aussi. Ce qui n'a pas été fait dans la fabrication de la matzah. Par conséquent, une partie de ton énergie, l'énergie que tu pourrais prélever du fait que tu manges la matzah, une partie est nécessaire pour pouvoir la digérer. Donc, en fait, l'énergie que tu emmagasines avec la matzah, elle n'est pas complètement à ta disposition. Parce que tu l'utilises, tu en utilises une partie pour digérer cette matzah. C'est pour ça qu'ils donnaient ça à manger. Comme ça, ils avaient donné à manger, mais on n'avait pas de force. Ça tient pas au corps. Alors c'est Matzot, comme c'est le soir du Seder et que c'est une fête, donc les Matzot, elles vont être sur la table. Comme le Shabbat et Yom Tov, c'est les challot ou les pains sont sur la table, il y aura sur la table des Matzot. Alors on a l'habitude, le pain de Shabbat, les challot, etc., on a l'habitude de le couvrir. Quand on le couvre, alors il y a deux raisons. Il y a une raison qui est que on va faire kiddush. On fait kiddush avant de faire motzi. Or, il y a des règles de préséance. Quand on a certains produits, il y a des règles. Qu'est-ce qu'il faut manger? Sur quoi il faut faire les brachot d'abord? Et normalement, si on a du pain et du vin devant soi, il faut faire d'abord la bracha sur le pain. C'est pas ce qu'on fait puisqu'on fait kiddush d'abord. On va faire, et dans kiddush, il y a une bracha sur le vin. Donc il y a un problème. Donc il y a deux possibilités. Ou tu mets pas le pain sur la table au moment du kiddush, ou si tu le mets, alors tu le couvres. C'est un peu débile de mettre et couvrir, mais bon. À peu près, pratiquement tout le monde fait ça. Il y a une deuxième explication, qui est que quand la manne tombait, elle tombait enveloppée par la rosée. Donc c'est c'est réminiscent de la rosée qui fait que on va couvrir le pain, les challot qui sont réminiscents de la manne. Alors, on a les matzot à la place. Donc, elles sont couvertes. Elles sont couvertes parce que le premier kos, qui est le kos de Kiddush, on fait beurre plus gaffen avant de faire aussi. Donc, évidemment, il faut les couvrir. Mais ensuite, commence le rituel du soir du Seder, et on va prendre le plat, enfin, on va montrer les matzot et on va dire, Ah, lachma aniya. Ce pain, c'est le pain, c'est un pain pauvre, puisqu'il n'a pas de levain, mais c'est aussi le pain du pauvre, qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. C'est-à-dire, c'est le pain d'esclavage. OK, c'est ce qu'on dit. Et ensuite, on repose tout ça, on va faire le récit Sipur Yetziat Mitzrayim, le récit. Et à un moment donné, on arrive au bout du récit, enfin, une grande partie du récit, et il y a une mitzvah de manger la matzah. Manger de la matzah. On va faire motzi sur la matzah. Mais avant de manger cette matzah, on va présenter cette matzah comme étant le pain de la liberté. Il faut savoir. D'accord? Un coup, tu dis c'est le pain de la misère, et après, tu l'appelles. C'est la même matzot. Tu soulèves les mêmes matzot, celle dont tu as dit qu'elle était le pain de la misère, le pain de l'esclavage, tout à coup, c'est devenu le pain de la liberté. Alors, j'avais déjà donné une explication, enfin. Ce qui se passe, c'est que le récit de la sortie d'Égypte, la halakha, elle est que ce récit se fait à matzot découverte. C'est-à-dire que quand on raconte, il faut découvrir les matzot. Donc toute la soirée, les matzot sont découvertes, sauf les quelques moments où on va boire du vin, le deuxième verre, d'accord? À ce moment-là, il faut couvrir juste le temps de la bracha sur le vin, et ensuite on redécouvre et on continue. Donc, le récit s'est fait à Matzot découverte. Alors, si vous voulez, je voulais dire que quelque part, qu'est-ce qui est arrivé avec ces Matzot? Les Matzot, elles ont été bombardées par le récit de la sortie d'Égypte. Et avec le récit qui a donné du sens à tout ce qui s'était fait, au fait qu'on a commencé par cet esclavage, etc. Eh bien, C'est ça qui a fait évoluer ce même pain. On le regarde d'une autre manière maintenant, fort qu'on ait du récit explicatif, enfin, en tout cas un récit autour de tout ce qui s'est passé, en particulier, qui va nous donner à comprendre qu'en vérité, ce qui est très important, c'est dans quel état d'esprit on mange. Tu manges la même chose, mais tu peux le manger. Alors c'est vrai que ce ne sera toujours pas quelque chose qui va tenir, mais ça ne nous dérange pas quand on est dans la joie, quand on peut en manger combien on veut, etc. Et donc c'est ça qui fait qu'on a pu passer de la matzah esclavage, pain de l'esclavage, à la matzah pain de la liberté. OK. Donc pour terminer, on doit régler le problème du Corban Pessah. Quand il y avait le Corban Pessah, alors c'est comme je vous l'ai dit, à la fin du repas, on mangeait les aides du Corban Pessah. Mais nous, on continue le même seder, sauf qu'on n'a pas de Corban Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer le Corban Pessah par quelque chose. Alors la règle générale, c'est que quand on remplace, parce qu'on n'a pas, lorsqu'on remplace quelque chose, on ne va pas le remplacer par quelque chose qui est une bonne approximation. C'est-à-dire, on va pas, si on supposait qu'on n'ait pas de étrog, on va pas remplacer le étrog par un citron. Parce que ça c'est faux. C'est faire passer le citron pour un étrog, ça c'est une tentative de faire passer du faux pour du vrai. On va faire quelque chose qui a rien à voir. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme un étrog, mais quelque chose qui nous fait penser à la notion d'étrog. Là, en l'occurrence, on va chercher quelque chose qui va nous faire penser à la notion de Korban Pessah. Qu'est-ce qui fait penser au Korban Pessah? Eh bien, on peut penser au Korban Pessah en mangeant ce qu'on mangeait en même temps que le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on mangeait en même temps que le Korban Pessah? La matzah. Ben voilà, c'est une super idée. Voilà, vous avez une bonne idée. On va prendre un morceau de matzah. On va lui dire, toi, tu vas me faire penser au Korban Pessah. Donc, je vais manger ce morceau de matzah en me rappelant que je devrais normalement manger la viande du Korban Pessah, mais j'en ai pas. Mais je veux pas perdre l'idée qu'il y a derrière le Korban Pessah. Donc, je mange ça en lieu et place du Korban Pessah. Là, il n'y a pas de confusion, on ne va pas prendre ça pour de la viande, etc. Mais vous me dites, mais c'est la matzah, mais on en vient d'en manger de la matzah au titre de la matzah. Tu manges la matzah au titre de la matzah, et après, cette matzah, tu la manges au titre du Korban Pessah. Comment ça va? C'est compliqué quand même. Alors, la vérité, c'est qu'on fait quelque chose qui arrange les choses un petit peu. Après qu'on ait dit sur la matzah, c'était le pain de l'esclavage. Alors, on fait ce qui s'appelle l'étape du seder, s'appelle yachatz. C'est-à-dire, on partage la matzah en deux. Il y a une des matzot, celle du milieu, ou bien ceux qui ont deux matzot seulement, c'est celle du dessus, on la partage en deux. Et une moitié, la petite moitié, on la remet avec les autres matzot sur la table. Et la grande moitié, on l'enveloppe, on la met de côté. Et c'est de cette matzah-là qu'on va prélever le morceau de matzah qu'on va manger au titre du Korban Pessah. Et le gros avantage, c'est que cette matzah-là, elle est enveloppée. Elle n'a pas été bombardée par le. Parce qu'elle était protégée, elle était dans une enveloppe, elle était dans une serviette, elle était mise de côté. Donc, ça n'a pas été. Cette matzah-là, c'est de la matzah, c'est vrai. Mais ce n'est pas la matzah qu'on a mangée qui avait été bombardée. Donc, celle-là, elle n'a pas servi à montrer. Elle est neutre. Elle n'a pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a, c'est la moitié? Parce que en fait, on veut montrer comme le pain qu'on veut manger au début, dont on veut parler, c'est l'echem oni. Alors c'est un pain pauvre au sens où il est pauvre parce qu'il n'a pas de levain, il n'y a pas de levure, il va pas monter. Il est pauvre, point de vue-là. Il est pauvre aussi parce qu'il n'y a rien d'autre que de l'eau et de la farine, c'est tout. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. De l'eau et de la farine, c'est tout. Et puis surtout, on dit, le pauvre, en général, il n'a pas une masse entière, il n'a pas un pain entier, il a un morceau de pain. Donc on a fabriqué un morceau. En cassant la matzah, on a fabriqué un morceau. Quand on va faire la mitzvah d'achilat matzah, alors on va manger ce morceau. On va voir que c'est seulement un morceau. Donc c'est important d'avoir un morceau. On a fabriqué un morceau. Et pour l'autre, ça n'a pas d'importance puisque là-bas, il n'y a pas de. C'est pas de la matzah qu'on est en train de manger. C'est un truc qui rappelle le Korban Pessah. C'est ça qu'on va manger en lieu et place du Korban Pessah. Et donc, puisque on le mange en lieu et place, donc on le mange à la fin du repas, quand on est déjà rassasié, on en mange une quantité fixée. Bon, c'est une quantité de matzah, parce que de même que l'autre, c'était une quantité de viande, mais ça a une quantité bien définie. Et on va le manger dans un laps de temps défini aussi. Bon, on va manger dans quelques minutes et on va en manger un certain nombre un volume, parce que tout ça, c'est des volumes. Mais enfin, à partir du moment où on connaît la densité, on peut transformer ça en poids. Bon, en général, c'est des matzot, la matza, c'est un certain volume. C'est le volume d'une olive. Mais alors, nous, on peut pas, les volumes, c'est compliqué, on ne peut pas mettre la matzah dans l'eau et regarder, d'accord, combien ça il en sort. Alors, il faut auparavant savoir quelle est la densité de la matzah. Alors, ou bien on nous dit, les fabricants nous disent quelle est la densité, ou bien vous faites votre truc tout seul, vous prenez la matzah, vous la tassez à mort, comme ça, et puis vous pesez, vous savez combien. Vous en avez, je sais pas, tant et tant de centilitres, et vous regardez le poids et vous avez la densité, donc après vous savez quel poids de matzah il faut. Donc voilà ce que je voulais dire encore sur cette fameuse nuit, avec l'essentiel, c'est que le récit qui concerne le corban, le sceau, le Pessah, le Passover, c'est pas le récit de ce qui s'est passé, mais c'est le récit de ce qui a été annoncé qu'il allait se passer. Ça veut dire la causalité ici, elle est aussi à l'envers. De la même manière que le Sippour, le récit de la sortie d'Égypte, c'est pas un récit qu'on fait parce qu'il y a eu sortie d'Égypte. Il y a eu sortie d'Égypte, il y a eu des Makot, etc., parce qu'on voulait pouvoir faire un certain récit. Et pour que le récit soit pas mensonger, parce qu'on aurait pu faire, Hachem aurait pu faire au Bnei Israël, leur faire subir une hallucination collective. D'accord? Non, vous avez faire comme si vous avez vécu tout ça. Mais que ce soit vrai, alors ça a eu lieu. Hachem dit, je le fais pour que tu le racontes. C'est pas du tout, je l'ai fait, alors raconte-le. Je ne le fais que pour que tu le racontes. Donc là, en plus ici, c'est pas simplement que je vais le faire pour que tu le racontes, mais je veux que tu racontes que je l'avais annoncé. C'est important de savoir que ce qu'Hachem fait ici, il l'annonce. Alors, c'est quoi la différence entre faire quelque chose en souvenir de ce qui a été annoncé. Enfin, ce qui est très important, c'est que en ce qui concerne, quand Hachem dit quelque chose, c'est comme si c'était fait. Il n'y a pas de différence. Pour nous, il y a une différence. On dit, on fait, des fois, il y a des paroles dont on dit qu'elles sont performatrices, mais bon. Mais nous, nos paroles, elles sont en général pas performatrices. Il dit, je vais faire ça, et après, il faut le faire. Hachem, quand il dit qu'il va le faire ou qu'il le fait, etc., tout ça a lieu en même temps. Donc, il faut qu'on entende bien clairement que la parole d'Hachem, c'est la réalité. Donc, la Torah, qui est la parole d'Hachem, c'est la réalité. La vraie réalité, c'est la parole d'Hachem. C'est pour ça que, des fois, dans la Gemara, elle dit, d'où on sait quelque telle chose? Parce que c'est écrit dans le Passouk. Et alors, qu'est-ce que c'est écrit dans le Passouk? Qu'est-ce que ça change? Si c'est la parole d'Hachem, c'est la même chose. C'est plus réel que la réalité. C'est-à-dire que la Gemara raconte quelqu'un qui a entendu un chiour, et en chiour, le rav, il a dit quelque chose, et bon, je fais court. Et le type, il a fait un voyage et il a vu quelque chose qui confirmait ce que le rav. Il est revenu, il a dit, ah, c'est extraordinaire ce que tu as dit, je l'ai vu, c'est vrai. Le rav, quoi? C'est plus réel parce que tu l'as vu, parce que je t'ai dit, c'était ma... Je te dis, c'était la parole d'Hachem. C'est plus réel que ce que tu as vu. C'est ça qu'il faut. C'est difficile à intégrer parce que chez nous, c'est pas comme ça. Mais en réalité, si on tenait vraiment toujours nos paroles, bon, quand je les dis, c'est comme si c'était fait d'une certaine manière. Sauf que chez nous, on n'a pas, les choses se font pas obligatoirement. Dit tzadik gozer v'akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzadik, il décide, et Hachem fait ce que le tzadik a demandé et a dit qu'il a fait. Ok, ça se voit pas tout le temps. Voilà, on s'arrête là.